Et un grand entretien spécial Coupe du Monde de football aujourd'hui. Les footballeuses entrent en compétition ce soir. Match d'ouverture à 21h entre la France et la Corée du Sud. La finale le 7 juillet prochain. On souhaite aux Bleus ES le même succès qu'aux Bleus S. Et pour parler des enjeux sportifs, mais pas seulement de cette Coupe du Monde, je salue mes invités ici en studio à France Inter. Madame la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là. Cédric Guillou, service des sports, rebonjour.
Rebonjour.
Vous allez suivre la compétition pour les antennes de Radio France. Georges Vigarello, bonjour.
Bonjour.
Historien du corps et des émotions, vous avez de fait croisé le sport aussi dans vos objets d'études. Et je salue, elle est en ligne avec nous par téléphone, Anne-Laure Bonnet, bonjour.
Bonjour.
Notre consoeur journaliste de beIN Sport. 70% des places vendues, dispositif exceptionnel sur les chaînes de télé. Le président Emmanuel Macron qui est allé encourager les Françaises à Clairefontaine, comme le veut la tradition quand les hommes jouent. Le football féminin, Madame la Ministre, qui existe depuis plus d'un siècle. Premier match officiel en 1917. Est-il en train, enfin, de vivre un tournant peut-être historique et d'accéder au grand public ?
Oui, c'est vrai que c'est le sport où il y a peut-être le plus d'inégalités, mais c'est aussi le sport qui est le plus visible. Donc à partir du moment où on parle de foot féminin, de sport féminin à travers le football, on parle aussi de plus de femmes dans le sport et aussi de la place de la femme au-delà dans notre société.
Est-ce qu'il y a un plafond de verre là qui va exploser entre foot féminin et foot masculin, entre les filles et les garçons, les hommes et les femmes ?
On n'en est pas encore au plafond de verre, je pense que c'est le début, les débuts pour le football féminin, mais ce qui est intéressant, c'est aussi qu'au niveau de la fédération, de l'organisation de cette Coupe du Monde, il y a beaucoup de femmes qui se sont impliquées, il y a beaucoup de femmes qui ont été sur la scène visible, des anciennes footballeuses notamment, et moi je crois beaucoup que c'est aussi par la féminisation des instances dirigeantes, des personnes qui pensent aussi le football, l'organisation d'événements sportifs, que tout ça pourra changer.
Georges Vigarello, avec quel œil allez-vous regarder cette compétition ?
Le constat d'une transformation extrêmement importante. Si on compare, par exemple, des tout premiers matchs, je pense à un match qui a lieu en 1925, et que commente l'équipe ? L'équipe dit, écoutez,
le journal.
Oui, le journal du sport. Écoutez, non, ça peut pas fonctionner. Des élèves de 12 ans gagneraient, donc c'est pas possible, etc. En 41, Vichy interdit le football féminin, vous voyez. Donc ça renvoie quand même à un passé qui est un passé d'exclusion, de domination à l'égard du féminin, etc. Qu'est-ce qui se produit aujourd'hui ? Il se produit incontestablement une pratique qui est visible. Une pratique qui, de surcroît, a des résultats. L'équipe de Lyon a gagné il n'y a pas très longtemps la Coupe d'Europe de football, l'équipe de Lyon féminine. Donc, indiscutablement, il y a une affirmation que je trouve personnellement très importante. Et en même temps, on voit très bien, c'est un paradoxe magnifique par certains côtés, on voit très bien que cette affirmation n'aboutit pas du tout au même niveau que l'est aujourd'hui le football masculin. Donc le sport est intéressant pour une double raison. D'une part, parce qu'il montre effectivement que les pratiques féminines s'imposent, qu'elles sont beaucoup plus présentes et beaucoup plus importantes qu'elles ne l'étaient, et en même temps qu'elles ne sont pas encore acceptées comme le sont les pratiques masculines. Donc là, on voit très bien qu'il y a une tension, qu'il y a un combat. Inutile de vous dire qu'à mes yeux, le combat sera gagné par le féminin.
Anne-Laure Bonnet, journaliste à beIN Sport, je le redis, si on regarde les enjeux strictement sportifs maintenant, quelles sont les qualités selon vous de l'équipe de France ?
Déjà, la qualité première des joueuses de football par rapport aux joueurs de football, c'est le fair play. Après, la qualité de l'équipe de France, la première qualité, le premier point positif pour cette équipe de France, c'est qu'elle va jouer à domicile et que l'engouement est réel. On le voit au quotidien, on le voit dans les médias, on le voit auprès des supporters. Après, c'est une équipe qui se connaît bien. Corinne Diacre, l'entraîneur de l'équipe de France, est une femme qui a énormément d'expérience, donc elle a su s'appuyer sur les meilleurs éléments français, parce que vous le rappeliez, l'équipe de Lyon a gagné la Ligue des Champions, a l'habitude de gagner la Ligue des Champions, donc il y a cette équipe qui est déjà formée à Lyon, ses habitudes, ses automatismes, qui peut permettre à l'équipe de France de viser la victoire. Je pense que personne n'a de doute là-dessus, c'est le vrai objectif, et c'est un objectif absolument réaliste.
Est-ce qu'il y a, Cédric Guillou, une école française en football féminin ? Effectivement, Lyon, c'est une équipe absolument absolument extraordinaire. Est-ce qu'il y a une patte particulière pour notre pays ou pas?
Alors, et Anne-Laure le disait, Lyon a gagné sa 4e Ligue des Champions consécutive. Donc ça veut dire quand même quelque chose. C'est la meilleure équipe européenne depuis de très nombreuses années. Tout ça parce qu'il y a une quinzaine d'années, il y a Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, qui s'est dit, moi je vais mettre de l'argent, je vais investir dans le football féminin. Et il en tire les bénéfices aujourd'hui. Il y a eu deux personnages essentiels dans le développement du football féminin aujourd'hui en France, c'est Jean-Michel Aulas, j'en parlais, et puis Louis Nicolin, le président de Montpellier, qui également, à son époque, s'était intéressé au football féminin. Et effectivement, oui, aujourd'hui, il y a une vraie culture du football féminin en France à travers ces deux personnages et ces deux clubs que sont Montpellier et Lyon.
Pourquoi les États-Unis sont la meilleure équipe au monde? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question, Madame la Ministre?
Oui, parce que le football féminin, là-bas, a totalement un autre rôle. Il y a le football américain pour les hommes et
expliquez-nous, voilà, le foot, le soccer est un sport de femmes et de filles là-bas?
Oui, qu'on pratique beaucoup dans le cadre de l'école, qui derrière s'est professionnalisé, et c'est ce qui fait aussi toute la différence dont parlait Monsieur l'historien tout à l'heure.
Georges Vigarello.
Monsieur Vigarello. Qu'on ait aussi cette notion de performance et d'homogénéité entre les équipes, entre les joueuses, c'est ça qui fait aussi que derrière on va pouvoir donner plus d'importance et plus de valeur à celui ou à celle qui gagne, à l'équipe qui va gagner. Et c'est vrai qu'en France, on a effectivement des clubs un peu formateurs comme Juvisy, on a ces clubs où les présidents investissent et donnent autant peut-être, ou en tout cas autant de moyens au départ aux filles et aux garçons, comme Lyon, comme un peu le PSG là ces derniers temps. Mais ce qui compte, c'est qu'il y ait une homogénéité. C'est vrai qu'en France, pour l'instant, voilà, à part 3-4 clubs, on n'en est pas encore du tout dans le cas des États-Unis ou dans d'autres championnats comme on peut l'être aussi en Espagne.
Ce qui est important aux États-Unis, c'est quand même le fait que le féminisme est extrêmement fort, un féminisme étudiant en particulier, qui favorise évidemment ce type de pratique. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est quand même que pour comprendre la montée du sport féminin, il faut en même temps s'interroger sur le sport masculin.
Alors allez-y.
Et je trouve que le sport masculin a énormément bougé. Lorsque je reviens toujours aux périodes antérieures, lorsque vous regardez ces journaux qui étaient très importants dans les années 20-30 du XXe siècle, lorsque vous les regardez, vous voyez que c'est la force qui l'emporte. Les images de magazines représentent la boxe, la lutte, etc. Or, manifestement, ce type de repère a fondamentalement changé, y compris pour la pratique masculine. Donc il y a, voyez, il y a un double phénomène qui se produit. À la fois une sorte de sensibilité croissante quant aux exercices qui sont des exercices d'adresse, qui sont des exercices de finesse chez le masculin, et en même temps l'investissement des pratiques traditionnelles de la force chez le féminin.
Pourquoi certains sports sont instantanément féminisés ou presque, et d'autres prennent un tel retard? Oui. Suzanne Lenglen, c'est pas hier, et le foot dont on parle, c'est peut-être aujourd'hui.
Mais je crois, voyez, on revient à un paradoxe que j'évoquais tout à l'heure, je crois qu'il faut prendre en compte les repères traditionnels. Les repères traditionnels continuent, malgré les changements, de fonctionner. C'est-à-dire que les sports qui représentent la finesse, la grâce, l'esthétique, continuent d'être considérés comme des sports féminins. Par exemple, quand vous regardez les statistiques, vous voyez que les gymnastes femmes sont beaucoup plus nombreuses que les gymnastes hommes. La pratique de danse sportive est plus prégnante au niveau du féminin. Donc, vous voyez, à la fois, il y a, c'est ça qui est très intéressant, il y a à la fois quelque chose qui bouscule complètement les repères et en même temps l'entretien de repères anciens.
On voit, et on le pose, hein, le sujet, on voit arriver de l'argent dans le foot féminin. Roxana Maracineanu, est-ce une bonne nouvelle?
Oui, bien sûr.
Qu'il y ait plus de sponsors, plus d'argent. On critique le football business qui serait une forme attaquée de l'authenticité du foot. C'est un peu plus compliqué que ça. Et là, on peut peut-être se dire que oui, s'il y a des sponsors, c'est que le sport est en train d'émerger.
Je crois que c'est indispensable, parce que pour arriver à ce que j'ai dit tout à l'heure, une vraie performance et une performance reconnue par les médias et du coup plus valorisée, qui va inciter d'autres petites filles à venir à ces sports-là, eh bien on va y arriver seulement si les joueuses peuvent être professionnelles et si elles peuvent se détacher complètement de leur préoccupation d'aller travailler en même temps que d'aller s'entraîner. Donc à partir du moment où elles peuvent le faire de manière professionnelle vraiment comme les garçons et qu'elles peuvent en tirer un bénéfice pendant leur carrière mais aussi un peu après, au moins un petit peu. Ça permettra aussi de professionnaliser le sport et c'est ça qui donnera aussi derrière plus de résultats reconnus, donc plus de visibilité et ça entraînera aussi... Après la machine.
Cédric Guillot.
Après l'écart avec les hommes, il est encore considérable. Hein. Considérable. La FIFA, la dotation de la FIFA pour cette Coupe du Monde, c'est 30 millions de dollars. C'était 400 millions de dollars pour la Coupe du Monde masculine.
Non mais l'écart est considérable, y compris au niveau des statistiques. La pratique féminine en football n'atteint pas 10%.
Mais c'est exactement le même voilà, rapport finalement. Rapport.
Oui, oui. Donc, mais je reviens sur la question du financement. La réussite d'un sport passe... En termes de public, évidemment, passe par sa visibilité. Sa visibilité implique évidemment des systèmes de financement, des systèmes de faveurs données à la publicité, etc. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui lie en quelque sorte la réussite sportive et indiscutablement l'investissement financier.
Est-ce qu'on demande beaucoup trop à cette équipe de foot, comme on demande souvent beaucoup trop à l'équipe de France de football des garçons? On leur demande aussi d'être des actrices du féminisme et de l'avancée des droits des femmes à l'occasion de cette compétition, Madame la Ministre.
Je crois que pour que tout cela marche, parce qu'on n'en demande jamais trop, voilà, ça répond à des besoins, tout ce qu'on demande dans la société, et aussi pour elle. C'est vrai qu'on a envie qu'elle gagne aujourd'hui, parce que ça fait un moment qu'elle tourne autour de ce podium, et on a envie qu'elle réussisse, mais pour que ça marche, il faut surtout pas qu'elle sache qu'on attend tout ça d'elle aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que le rôle de Corinne Diacre est important, parce qu'elle, elle est au courant, mais je peux vous dire qu'elle fait filtre, et qu'elle arrive aussi à les préserver, et c'est ce qu'il faut jusqu'à la fin, qu'elle ne se sente pas... soumise à des attentes,
et puis les ambassadrices d'une cause. Question voilà, en fait, d'une cause.
Parce que sinon, c'est très facile de s'oublier, d'oublier la performance, et il y a rien de pire en fait. Il faut arriver à se concentrer.
Oui, je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire. L'attention est d'autant plus grande que cette pratique, elle est relativement dominée. Donc l'ambition est encore plus forte, vous voyez, parce qu'il faut compenser quelque chose qui renvoie à une faiblesse, une diminution, un manque.
Anne-Laure Bonnet, vous êtes là ?
Oui, absolument. Elles ont un rôle capital parce que ce qui est important, c'est que les jeunes filles voient que des femmes jouent au foot. Parce que il y a encore des jeunes filles qui sont empêchées de jouer au football par leurs parents. J'ai très souvent des jeunes filles qui viennent me voir en me disant « ma maman, mon papa ne veulent pas que je joue au foot parce qu'ils trouvent que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas d'avenir, que ça ne sert à rien ». Alors, rien que le fait de jouer... Elles vont jouer en France, elles vont être extrêmement exposées médiatiquement, les matchs vont être visibles, rien que ça, et c'est malgré elles, de toute façon, elles auront un rôle capital pour ces jeunes filles, et les parents de ces jeunes filles qui ont besoin de voir, besoin de visualiser, besoin d'avoir des modèles pour pouvoir après autoriser les jeunes filles... Future championne française à évoluer.
Ça change quelque chose, j'imagine, Cédric, que de jouer dans des stades pleins?
Ben, elles vont devoir gérer ça aussi, devoir gérer la pression populaire. Quand vous regardez un petit peu les affluences de la D1 féminine, ça dépasse très rarement les 3 000-4 000 personnes. Là, elles vont jouer au Parc des Princes ce soir devant 48 000 personnes. Il y a quasiment tous leurs matchs à guichet fermé, excepté celui de Nice, pour l'instant le France-Norvège de la deuxième journée. Ça va être un sacré changement aussi pour les féminines.
Alors pourquoi le Parc des Princes et pas le Stade de France ?
Je pense qu'on a choisi aussi tous les stades dans les 9 villes hautes en fonction de la jauge qui avait été constatée à la dernière Coupe du Monde pour qu'on n'ait pas justement des stades à moitié pleins. Et c'est le cas puisque 15 matchs vont être joués aujourd'hui à guichet fermé, donc c'est une réussite. L'important c'est au moins de donner effectivement cette impression de plénitude au moment d'arriver sur le terrain d'engouement. Donc voilà, on a aujourd'hui, je pense, fait exactement ce qu'il fallait faire pour que ce soit un beau spectacle.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les organisateurs, ils sont partis sur le principe qu'il fallait avoir une politique tarifaire extrêmement intéressante. Et les places aujourd'hui sont à 9 euros. Hein. Je crois que les places pour aller au Parc des Princes sont à 9 euros. Parce qu'aussi, il faut donner une bonne image du football féminin. Il y a 130 pays qui vont transmettre la compétition et c'est toujours plus intéressant de vendre une compétition quand il y a du monde dans le stade plutôt qu'avec une politique tarifaire un petit peu plus haute où il y aurait eu beaucoup de sièges vides. Donc c'était un vrai choix aussi de la Fédération Française de Football de mettre les places à un tarif très très bas, comme ça avait été le cas d'ailleurs pour la finale de la Ligue des Champions à Budapest où on pouvait trouver une place en tribune latérale pour 3 euros.
On est en ligne, ouvrons le débat et accueillons les auditeurs et auditrices de France Inter. Bonjour Laura.
Bonjour à tous, merci de m'accueillir.
Je vous en prie.
Pour débattre un petit peu.
Alors, je lis Association de supporters de l'équipe de France. Dites-nous où vous êtes, ce que vous faites et à quoi va ressembler votre soirée.
Oui, tout à fait. Je fais partie donc du groupe de supporters de l'équipe de France qui s'appelle France Angel. Et donc là, je suis sur le chemin pour rejoindre Lyon, d'où les supporters de toute la France vont partir pour rejoindre Paris et assister au match ce soir.
C'est un gros club de supporters.
Un club important, oui, qui s'est constitué justement pour cette Coupe du Monde et qui suit l'équipe de France déjà depuis quelques matchs, depuis pas mal de matchs de préparation, et qui les suit, qui est présent à tous les matchs, qui sera présent à tous les matchs pour cette compétition.
Laura, je vous demande un pronostic, ou ça porte malheur?
Non, ça porte pas malheur. Je vais simplement vous dire que on espère bien sûr une belle victoire, mais voilà, pas trop de pression pour les joueuses, qu'elles donnent tout, et puis voilà, on sera ravis.
Allez, bonne compétition, Laura, du côté des supporters. On va prendre Marie-Pierre en ligne également au standard. Bonjour Marie-Pierre.
Oui, bonjour. Moi, je voulais raconter mon témoignage. J'ai 53 ans. J'ai pratiqué le foot à haut niveau en championnat de France entre l'âge de 15 et 25 ans. Et maintenant, à 53 ans, je joue toujours un peu avec des copains en salle, etc. Mais j'ai essayé de m'inscrire au club d'à côté pour jouer en extérieur et je peux pas le faire. J'ai pas pu prendre une licence à la Fédération française de foot. D'abord, je suis tombée sur des entraîneurs assez sexistes qui m'ont expliqué que oui, je jouais bien, mais que c'était compliqué. Bon, j'ai compris au bout d'une heure de conversation que c'était mon sexe qui était bloquant. Et pourtant, j'avais un niveau qui était vraiment vraiment équivalent à ceux de mes coéquipiers hommes. Et puis quand j'ai écrit à la Ligue, on m'a expliqué que effectivement, à partir de 15 ans, c'est plus mixte. C'est à moi de trouver une équipe pour jouer. Alors évidemment, j'ai pas envie de jouer avec des filles de mon âge, de l'âge de mes filles, hein. J'ai pas envie de jouer avec des filles de 15 ans. Je m'en fous, moi, du sexe. Moi, j'ai envie de jouer à 53 ans avec des gens qui ont à peu près 50 ans parce que, évidemment, j'ai pas envie de me faire dribbler ou passer à chaque ballon. Mais donc, il faut des gens qui ont la même condition physique que moi. Et voilà.
Mais dites-moi, Marie-Pierre, on va évidemment demander une réponse à la question que vous posez. Vos anciennes coéquipières de l'époque où vous jouiez à haut niveau, vous êtes toutes perdues de vue, vous ne jouez plus ensemble?
Ah, c'est ça, oui. Non, j'ai plus aucun contact avec aucune des filles qui jouaient avec moi à l'époque. Ouais.
Restez avec nous en ligne, Roxana Maracineanu. Qu'est-ce qu'on peut dire à Marie-Pierre qui ne trouve pas un club pour jouer sa classe d'âge, son niveau?
Pour la rassurer aussi un peu sur l'état du football, c'est un phénomène qu'on connaît dans tous les sports collectifs. À partir du moment où les femmes veulent s'engager dans une activité physique à l'âge adulte, elles vont rarement vers les sports collectifs parce que justement, tout simplement, on n'arrive pas à trouver assez de copines, assez de femmes, parce que chacune est partie de son côté, chacune a eu une vie familiale. Et c'est aussi, je pense, sociologiquement assez intéressant, parce que les hommes, autant ils arrivent à se réserver des temps de loisirs ensemble, autant les femmes, elles, voilà, plus préoccupées par leur famille, par leur vie professionnelle, se coupent les unes des autres. Et c'est vrai qu'après, à l'âge adulte, quand on parle de sport, d'activité physique, on parle rarement de choses faites en collectif.
Reste dans ce que nous venons d'entendre, reste quand même ce dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire des résistances quand même par rapport à une pratique féminine. Vous voyez, ça c'est quand même un problème qui doit être surmonté. Une suggestion que je fais personnellement, qui me paraît relativement importante, c'est dans l'éducation de sportive, et en particulier dans l'éducation du football, pourquoi ne pas, dans les âges relativement précoce, constituer des équipes mixtes, de façon à ce qu'il y ait une culture qui bouge, vous voyez, et qui touche à la fois ceux qui organisent et ceux qui pratiquent.
Justement, on a une question au standard de Mathieu, et puis je vous redonne la parole, Marie-Pierre. Est-il possible d'envisager des championnats mixtes? Mathieu de la Drôme pose cette question-là, je vous la livre. Oui, Madame la Ministre, Georges Bigarello.
En tout cas, chez des enfants, je trouve que ce serait très bien.
Marie-Pierre, dites-moi, est-ce que ça vous fait plaisir de voir l'engouement ou au minimum l'attention qui est portée à ce sport que vous avez pratiqué à haut niveau?
Eh bien, oui et non, parce que je dois vous dire quand même que quand donc l'entraîneur m'a dit « écoute, c'est compliqué, voilà, tout ça, on a peur que tu te fasses mal », je crois que j'en aurais pleuré, et c'est presque la première fois que j'ai été amenée à être aussi bouleversée du part du fait que je sois une femme, parce que dans le reste de ma vie, on va dire que je gère bien le fait d'être une femme, mais vraiment j'ai été profondément bouleversée. Là, je suis contente que vous me donniez la parole, parce qu'en fait, si vous voulez, ça me fait aussi un peu mal, en fait, d'entendre toute la journée le foot féminin. Bien sûr, je vais regarder, mais bien sûr, c'est super.
Pourquoi mal ?
Moi, c'est pas la question de la compétition. Moi, c'est que j'aime jouer au foot et je voudrais jouer au foot au même titre que les hommes. C'est tout. Donc oui, c'est super que le foot féminin avance, mais en même temps, voilà, je dis que chaque fois que j'entends la publicité, j'ai mal au cœur, quoi. Vous comprenez ?
Parfaitement bien. Merci beaucoup, Marie-Pierre, d'être intervenue au micro de France Inter ce matin. Un mot sur Madame la Ministre.
Oui, parce que là, on parle de la vitrine. Et effectivement, la réalité, c'est que le football reste quand même un sport machiste, il faut le dire.
Déjà, c'est pas seulement masculin.
C'est discriminant pour les femmes aujourd'hui, la réalité. Et c'est vrai que la Fédération française de football aura un choix à faire. Quand toutes les petites filles vont venir se présenter sur le terrain avec l'engouement de cette vitrine, faudra faire un choix. Est-ce qu'on enlève des petits garçons sur le terrain et on prend plus de filles? Parce que les terrains, ils sont pas extensibles. Mmh. Ils ont mis 15 millions d'euros pour construire des nouveaux terrains, mais à mon avis, ça va pas suffire. Donc il faut que dans le football amateur, on parle beaucoup plus de jeu que d'enjeu. Arrêtons de faire uniquement de la sélection, parce qu'il y a aussi des petits garçons et des petites filles qui veulent jouer pour le plaisir et pas uniquement pour devenir des grands joueurs de football qui passent à la télé. Et il faut aussi qu'on puisse accueillir les petites filles qui vont vouloir venir et les grandes filles comme Marie-Pierre.
Un mot, Georges Vigarello, de conclusion.
Mais ce que nous venons d'entendre chez cette auditrice et qui me paraît extrêmement important, c'est que d'un côté, dans le monde quotidien, l'égalité existe à plusieurs titres, à plusieurs niveaux, sur plusieurs pratiques. Et d'un autre côté, dans un certain nombre de secteurs, cette égalité est bafouée. On est face à ça quand même, voyez-vous. Donc c'est encore plus douloureux, c'est encore plus difficile de ressentir cette résistance alors qu'elle n'existe pas dans certaines pratiques du quotidien et au contraire que l'égalité s'impose. Ça me paraît fondamental comme problème.
Et il est possible qu'il faille regarder de très près du côté des cours de récréation aussi, où je pense que ça se joue là avant même la fédération de foot. Merci à vous en tout cas, Roxana Maracineanu, Georges Vigarello, Cédric Guillou, Anne-Laure Bonnet, merci pour cette table ronde d'ouverture et bonne chance à l'équipe de France ce soir.